are powerful. We run this
mother. La femme puissante est un genre de monstre.
Y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire, t'as du clito.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et pourtant, le moment est venu pour les femmes d'assumer enfin. Femme puissante, saison 2, 4 nouveaux numéros, avec une colonelle de gendarmerie, la Beyoncé française, une reine de Paris. Et ce samedi, c'est une maître du monde économique qui est notre invitée. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé sur France Inter.
Sixième étage. Bonjour Christine Lagarde.
Bonjour, comment allez-vous? Quelle surprise de vous voir.
Merci.
Entrez, je vous en prie.
Merci de vous recevoir chez vous en plus.
Mais oui, c'est
on
tout
a de la
fait.
Chance de venir chez vous. D'autant plus que jusqu'à hier soir, j'ai eu peur que vous soyez retenue à Francfort, en fait.
Ouais.
Que vous...
Heureusement, ça s'est terminé avant 11h du soir. Donc,
À 23h30, je crois que vous avez dit « Ok, c'est bon, elle sera là vendredi matin ». Ouais. C'est chez vous ici, on est...
C'est mon refuge ici, oui.
Ah, c'est là où vous vous sentez chez vous.
Chez moi, c'est Francfort, parce que c'est là que je travaille et que je passe le plus clair de mon temps, mais ici, c'est mon refuge, oui.
Ça fait longtemps que vous avez cet appartement à Paris?
Celui-ci, non, mais j'ai habité dans cet immeuble depuis 20 ans, oui.
D'accord, donc c'est un quartier
je monte au fur et à mesure.
À l'étage, pour aller un peu plus haut vers le ciel, comme votre carrière, j'ai envie de dire.
Voilà, c'est ça.
On y va?
On y va. Vous voulez pas vous défaire?
Si, je vais me défaire, comme vous dites.
Et vous voulez, si vous voulez. Attendez, je vais à côté parce que...
Oui.
Ce qui marque d'abord chez elle, c'est l'allure. Tout semble parfait. La coiffure, la robe bleu marine, l'intérieur bourgeois, mais pas trop. Tout est « under control », comme elle dirait. Tout sauf peut-être les cuissardes qu'elle portait ce jour-là. Petite touche rock dans un monde où l'on se tient. Même ceux qui critiquent en elle la gardienne du temple libéral, au FMI puis à la BCE, reconnaissent que s'il y a bien une femme française puissante dans le monde, c'est elle. En tout cas, elle trône depuis 15 ans dans le classement Forbes des femmes les plus puissantes du monde. Première femme à diriger le plus grand cabinet d'avocats américain, première femme ministre de l'économie en France, certains la rêvent, première femme présidente de la République. Pour l'instant, elle gère à la tête de la Banque Centrale Européenne la crise financière et économique du siècle. On a essayé de déboutonner un peu Christine Lagarde.
Je vous emmène à la cuisine, mais c'est bon ? Ok, super.
Christine Lagarde, à quel moment de votre vie vous êtes-vous sentie la plus puissante ?
Oh, ça m'arrive assez souvent. Il n'y a pas eu un moment particulier. Non, ça, oui, ça m'arrive assez souvent. Mais dans des circonstances parfois un peu improbables. Hein. Quand j'arrive à faire encore aujourd'hui 50 mètres sous l'eau sans respirer, je me sens très très puissante.
Ah, vous voilà. Le faites encore.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez été première femme à piloter un grand cabinet d'affaires américain, Baker & McKenzie, aux États-Unis, à Chicago. Mmh. Ensuite, vous avez été la première femme ministre de l'économie en France. Vous avez été la première femme patronne du FMI. Vous êtes aujourd'hui la première femme patronne de la BCE. Ça vous arrive parfois de ne pas être première, Christine Lagarde?
Bon, j'ai eu beaucoup de ratés avant. Hein. Tout ça, oui, j'ai été la première femme à exercer ces fonctions-là et ça donne un sentiment de puissance. Mais je pense pas que vous êtes en situation de pouvoir, pas en situation de puissance.
C'est quoi la différence?
Écoutez, le sentiment de puissance, c'est le fait d'être en maîtrise. Ce que je vous disais, c'est sérieux. Quand je fais 50 mètres sous l'eau et que j'arrive au bout, j'ai un vrai sentiment d'exaltation et de puissance parce que je suis en maîtrise du souffle, de l'effort musculaire, etc., etc. Et donc, je pense que c'est, pour moi en tout cas, c'est associé à la maîtrise.
Ouais, alors que le pouvoir, c'est de la domination ou de l'influence ou quelque chose.
Le pouvoir, c'est la capacité de décider, c'est la capacité d'entraîner, c'est la capacité de décider à peu près de son emploi du temps, c'est la capacité de donner des directions et d'emmener des équipes, des entreprises, parfois un pays dans une direction qui a été choisie.
Comment vous expliquez que vous ayez à chaque fois cassé vous-même ce plafond de verre, que beaucoup de femmes n'arrivent pas à casser, sur des institutions ou sur des postes aussi importants? Pourquoi vous? Vous vous l'êtes demandé?
Non, honnêtement non, parce que j'ai pas eu le temps de me poser la question.
Non, mais si vous réfléchissez.
Et franchement, je pense qu'à chaque fois, Ça a été le fruit, le hasard joue un rôle très important.
La chance, le hasard, les circonstances jouent un rôle très important,
et les rencontres. Il y a une faculté de rencontre, d'écoute, dont j'ai hérité de ma mère. Ma mère était comme ça, c'était insupportable, on prenait le train avec elle réussissait à rencontrer 5 personnes, elle lui racontait leur vie, et on avait à peine fini de voyager qu'elle avait déjà pris 3 rendez-vous. Et donc j'ai hérité un peu de ça d'elle, et je pense que les rencontres, pour moi, ont joué un rôle très important. Je crois que je suis devenue chairman de Baker McKenzie, donc qui était à l'époque le plus grand cabinet d'avocats au monde, par des rencontres. C'était la rencontre de l'ancien chairman qui s'est dit, tiens, celle-là, elle est pas sotte, elle pourra aider dans telle et telle circonstance.
Donc c'est les rencontres, c'est pas tant que vous ayez, vous, une qualité intrinsèque, votre travail, votre capacité à endurer les choses.
Pas plus que d'autres, bien sûr, de toute façon, on n'arrive pas à tout ça sans travailler beaucoup, consacrer beaucoup de son énergie à ses missions ou à ses entreprises, faire des sacrifices, mais j'ai pas fait plus que d'autres. Je pense franchement que le hasard joue un rôle très important, la disponibilité aussi, la capacité à prendre un risque, parce que chaque fois que j'ai dit oui, franchement, j'ai pas tellement réalisé les risques que je prenais en même temps.
Vous dites donc, oui assez vite.
Pas à tout, mais dans des dans les bifurcations professionnelles que j'ai eues dans ma vie, j'ai souvent dit oui sans beaucoup réfléchir. Quand j'ai accepté de rentrer en France, alors que j'étais présidente de Baker McKenzie, j'étais à 2 ans d'une retraite dorée comme associée au sein du cabinet. En toute logique, si j'avais fait une balance avantage-inconvénient, j'aurais jamais dû rentrer. Mais évidemment que je suis rentrée, il n'y avait même pas de question.
Vous m'avez dit j'ai raté des trucs, vous avez raté quoi dans le...
Oh, j'ai raté l'ENA.
Ah oui, vous avez raté 2 fois, il me semble.
2 fois, absolument.
Vous regrettez d'avoir raté l'ENA? Ça reste une petite blessure d'orgueil ou non? Vous en foutez maintenant?
Rétrospectivement, je suis très contente d'avoir raté l'ENA. Heureusement que j'ai raté l'ENA.
C'est une fierté, donc.
Non, c'est parce que je pense que si j'avais réussi, ce dont j'aurais été incroyablement fière et ce dont ma mère en particulier aurait été ravie, j'aurais fini comme, je sais pas quoi, moi, directeur d'administration centrale dans je ne sais quel corps.
C'est atroce.
Et je pense que je me serais éteinte, ou peut-être que je serais partie, mais je pense que j'aurais...
Ouais. Et le zap tout de suite.
Longtemps, aux étages élevés du pouvoir, les femmes ne furent cantonnées qu'à des tâches subalternes. Mais c'est un monde qui bouge, et la nomination à la tête du plus grand cabinet juridique américain d'une femme jeune et étrangère de surcroît est une petite révolution. À 43 ans, la Française Christine Lagarde est la nouvelle présidente directrice générale de Baker & McKenzie.
Je crois qu'on parle d'un vieux monde. Le monde de demain, je l'espère, fera fi de ces principes de machisme.
Les premières choses que vous ayez envie de faire, c'est repeindre le bureau, changer le mobilier, mettre votre nom sur la porte.
Je crois que c'est un monde dans lequel les compétences priment sur les a priori.
Écoutez, moi j'ai demandé à ce que ma rémunération soit la même que celle de mon prédécesseur au nom du principe de l'égalité entre les sexes, et ça m'a été accordé par l'ensemble de mes associés.
Christine Lagarde, 51 ans, la première femme ministre de l'économie.
Eh bien oui, la France est attractive. Ça n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres.
Christine Lagarde a été désignée mardi directrice générale du Fonds monétaire international pour 5 ans, la première femme à occuper le poste.
Je ne suis pas la candidate de l'Europe, je ne suis pas la candidate de la France,
mais je suis aussi un peu un animal international.
Christine Lagarde voit aujourd'hui son avenir empoisonné par l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. La ministre assure que sa conscience est tranquille.
Est-ce que vous croyez que j'ai une tête à être copine avec Bernard Tapie? Non.
Le FMI ne peut pas financer la Grèce tant qu'elle a des arriérés avec le fonds.
Christine Lagarde, nouvelle bête noire des Grecs, mais Christine Lagarde depuis toujours encensée par les magazines américains.
Chouchoute de la presse anglo-saxonne
qui la classe parmi les plus puissants de la planète.
Pour revenir sur l'idée du pouvoir, où y a-t-il, vous avez fréquenté les deux mondes, vous avez fréquenté le monde politique, vous avez fréquenté le monde économique, où y a-t-il à vos yeux plus de pouvoir?
Enfin, je comparerais plutôt le secteur public et le secteur privé. Donc j'ai passé 20 ans, un peu plus de 20 ans de ma vie dans le secteur privé, en exerçant des fonctions de pouvoir au fur et à mesure du développement de ma carrière, en ayant la joie d'être un avocat avant. Et on a un certain pouvoir dans un cercle restreint. Dans des fonctions publiques, on exerce un rôle de pouvoir qui est beaucoup plus large.
Donc le politique n'a pas totalement abdiqué devant le monde économique.
Ah non.
Il a encore du pouvoir.
Il a un pouvoir extrêmement déterminant, formateur et fondateur.
Ceux qui disent, en fait, tout est soumis au capital, sont les grands groupes qui décident, les grands CEO ou les grands patrons du CAC 40 en France sont plus importants, au fond, qu'un ministre de l'économie, c'est pas vrai.
Si c'était vrai, on n'aurait pas besoin de toute l'activité de lobbying qu'on voit à Washington, à Bruxelles ou ailleurs. Mais cette activité de lobbying, elle existe parce que le secteur privé veut essayer d'influencer le secteur public à déterminer tel ou tel texte de loi, prévoir telle ou telle condition, modifier la loi fiscale dans tel sens pour ménager ou préserver leurs intérêts. Mais le socle dans lequel l'activité économique s'inscrit, elle est toujours définie par le politique, oui.
J'ai demandé à Elisabeth Badinter, dans cette série de femmes puissantes, qui serait à ses yeux la femme la plus puissante du monde. Écoutez.
La femme la plus puissante du monde aujourd'hui serait la patronne de Google avec deux enfants. Voilà.
Vous êtes d'accord avec elle ou non? Vous noterez le avec deux enfants.
Oui, ce qui me surprend un peu de la part d'Elisabeth Badinter, mais c'est bien parce que c'est vrai qu'on se découvre mère et que la maternité enrichit, si c'est ce qu'elle dit là. C'est pas faux, hein. C'est pas faux du tout. Enfin, il se trouve que Google n'est pas dirigé par une femme.
Oui. Elle dit aussi que ambition et femme sont deux mots qui ont rarement marché ensemble dans l'histoire. Une femme ambitieuse, c'était suspect. Fallait surtout pas assumer d'être ambitieuse. Est-ce que vous avez toujours assumé le fait d'être ambitieuse?
C'est pas un mot qui me gêne, mais c'est pas un mot dans lequel je me reconnais. Non, vraiment. Et c'est pas parce qu'il me paraît dégradant ou indigne, c'est que j'ai pas le sentiment d'être ambitieuse.
Ce serait quoi, ambitieuse?
Ambitieuse, c'est quelqu'un qui a un plan de carrière, qui a déterminé l'objectif vers lequel elle va, qui sera prête à éliminer au passage tous ceux ou celles qui vont la gêner pour réaliser cet objectif. Moi, je sais que personne ne me croit quand je dis ça, mais j'ai jamais fait de plan de carrière, j'ai jamais eu pour ambition ultime d'arriver en haut de la pyramide, et j'ai pas de cadavre dans mes placards. Donc, j'ai du mal à m'identifier à une ambition.
Oui, j'ai du mal à vous croire.
Ben oui, j'en étais sûre, parce que chaque fois que je dis ça, on ne me croit pas.
Yeah.
C'était Uptown Girl de Billy Joel et on est toujours avec Christine Lagarde.
Ça vous manque Paris quand vous n'êtes pas là ?
Oh, ça m'a toujours manqué, oui. Quand j'étais à Washington, ça me manquait. Quand je suis à Francfort, ça me manque. Oui, mais je suis une vraie Parisienne. Hein. Je suis née à Paris, j'ai fait une partie de mes études à Paris, j'ai travaillé à Paris de longues années.
Donc quand vous revenez ici, c'est vraiment, je suis à la maison, quoi.
Voilà, c'est mon... C'est pas très habité comme appartement, parce que je suis pas là souvent. Mais je me sens bien ici. Ouais.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
Je demande à chaque femme un objet qui incarnerait la puissance des femmes. Vous avez choisi quoi ?
Alors, j'ai choisi un truc qui est sur mon bureau depuis environ une dizaine d'années. Alors, on va
aller
vous le chercher.
Allez.
C'est un petit objet qui n'a aucune valeur. Il va falloir que je vous fasse une traduction en français. Hein.
C'est quoi ce petit objet ? C'est un petit...
Je vais faire la traduction en anglais.
Un petit écriteau.
C'est un petit écriteau. C'est une pièce de bois qui n'a absolument aucune valeur et que m'avait offert... l'équipe avec laquelle on a fait toute la campagne des dettes souveraines européennes quand j'étais directrice générale du FMI. Donc on s'est occupé du Portugal, de la Grèce, de Chypre, de l'Irlande, etc. Et donc au bout de mois de gestion de crise, l'équipe m'avait offert ce petit écriteau sur lequel il est écrit « There cannot be a crisis next week, my schedule is already full ». Ce qui veut dire « Il ne peut pas y avoir une crise la semaine prochaine, mon programme mais déjà plein. »
C'est l'histoire de votre vie.
C'est un peu l'histoire de ma vie, oui, ça c'est vrai.
Christine Lagarde, vous avez participé au Daily Show en 2019, le célèbre talk show américain. Écoutez.
À l'époque, vous acceptiez un job où la mission était quasi vouée à l'échec. On peut le dire aujourd'hui. Vous avez réussi, mais ce n'était pas terrifiant?
Oui, j'étais intimidée. Mais vous venez de marquer un point. Quand la situation est vraiment, vraiment désespérée, on appelle une femme.
Exactement.
C'est vrai ça, quand la situation va vraiment très très mal, quand c'est la méga cata, on appelle les femmes?
Souvent. Enfin, moi, c'est ce que j'ai souvent observé ou vécu moi-même. Chaque fois que ça devient catastrophique et qu'on ne sait plus très bien par quel bout prendre le bébé, on appelle les femmes.
Ceux qui disent que les pays qui ont eu une femme à leur tête, la Nouvelle-Zélande avec Jacinda Ardern, l'Allemagne avec Angela Merkel, s'en sont mieux sortis dans la crise du Covid que tous les autres pays qui avaient des hommes. Vous êtes d'accord avec ça ou c'est essentialiser de manière un petit peu bête les femmes?
C'est peut-être un peu excessif et puis je pense pas qu'on ait le recul suffisant pour dire ça a été mieux avec elle et ça a été pire avec eux. Mais il y a quand même une coïncidence assez troublante.
Oui, quand même.
Il y a plusieurs pays dirigés par des femmes où les taux de mortalité, les contagions, le taux de renouvellement, etc., tout ça, ce sont plutôt mieux gérés.
C'est ce que vous disiez d'une certaine manière en 2010, il y a 20 ans, à la journée du livre de l'économie.
Je crois qu'un certain nombre des désordres que nous avons observés au cours des dernières années, et tout particulièrement et singulièrement en 2008, puisque c'est ainsi que ça s'est manifesté, eh bien, aurait peut-être été atténué si on avait eu un peu moins de testostérone dans les salles des marchés.
C'est pas fantasmer la gouvernance féminine qui serait... On aurait... Si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, on n'aurait pas eu la crise mondiale de 2008, vous avez dit ça.
Non, mais je le crois profondément.
Vous ne pensez pas que c'est fantasmer, que les femmes gèrent mieux ou seraient...
Non, alors je regrette d'avoir dit Lehman Sisters, mais je pense que c'était pour forcer le trait. Ce qui est, à mon avis, calamiteux, c'est lorsque des questions sont gérées uniquement par des hommes. Et peut-être que si elles étaient gérées uniquement par des femmes, ça serait peut-être aussi calamiteux. C'est le principe de l'exclusion de l'autre qui me paraît redoutable. Et la diversité est une source de réflexion, de pondération, de meilleure appréciation du risque, de meilleure prise de décision, parce qu'on a des langages différents, on a des appréhensions différentes des problèmes, et ça j'en suis absolument convaincue.
Est-ce qu'il y a une manière féminine d'exercer le pouvoir, de prendre des décisions?
Il y a une manière différente.
Qui serait quoi? Mettez des mots.
Je vais vous parler de ma propre expérience, parce que j'ai pas fait d'études empiriques sur le sujet, mais j'ai toujours constaté, quand j'étais avec des groupes d'hommes, parce que j'ai toujours été amenée à diriger des conseils d'administration ou des équipes d'hommes, on approche le problème sous un autre angle. On est souvent plus attentif à la dimension des personnes. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai parfois une dizaine d'économistes avec moi et puis une femme. La dizaine d'économistes va me regarder l'ensemble des graphes, des documents, des pourcentages. Et puis, la femme fera ça aussi, mais elle se souviendra qu'il y a aussi des gens derrière les chiffres. Et ça, je pense que on a une propension à le faire qui est beaucoup plus importante que les hommes. Il y a une espèce de brutalité
vers le sujet traité qui est plus importante chez un homme que chez une femme.
Ça veut dire quoi? Que les femmes seraient plus douces?
Non, pas forcément plus douces. Je vous dis, elles abordent le problème différemment, avec un horizon, à mon avis, plus large, en prenant plus en compte certains éléments, alors qu'un homme va aller directement vers la série de statistiques. Voilà.
Ouais. Vous voulez dire la pensée complexe, c'est plus féminine?
Oui. 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 Je pense que on parle très souvent à propos de nous du multitasking parce que voilà, on a hérité
multitâche.
Parce que on a hérité culturellement, historiquement d'un certain nombre de tâches qu'on effectue bien plus souvent que les hommes, et je crois que cette multitâchéité dont on a hérité et qu'on assume nous amène à penser de manière plus large, oui, je crois.
Et pourtant des hommes, il y en a toujours beaucoup, beaucoup en quantité. Vous m'avez dit quand j'ai 10 économistes.
Mais
c'est ce que j'allais vous dire. Qui sont les femmes puissantes? Mais vraiment puissantes, pas quelqu'un qui a un vrai rayonnement ou qui a une influence. Il y en a pas beaucoup en fait.
Alors oui et non, parce que je pense que les règles qui ont été mises en place en Europe et particulièrement en France sur les quotas de femmes dans les conseils d'administration, bientôt quotas de femmes aussi dans les comités exécutifs, je pense que ça a changé les choses et ça a accéléré un processus.
Donc vous êtes favorable aux quotas?
Absolument.
100% absolument. Discrimination positive.
100% discrimination positive.
Sinon les choses changent.
J'assume complètement parce que sinon ça prendra trop de temps. Dans 160 ans, on en sera encore au même.
Oui, mais enfin ça va pas beaucoup plus vite, non? Quand vous êtes à la BCE, il y a combien de gouverneurs de banques centrales qui sont des femmes? Il y a combien de ministres de l'économie qui sont des femmes?
On est 25 et nous sommes 2 femmes.
Voilà.
Donc c'est même pas 10%,
hein? Même pas 10%.
Même pas 10%. Et
en ministre de l'économie, il y a qui?
Ministre de l'économie.
Les principaux.
Moi, j'ai été très longtemps toute seule dans le groupe des ministres des finances européens. Ensuite, il y a une espagnole qui m'a rejointe. Ensuite, il y a une finlandaise. Il y en a eu un peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de chemin à continuer à parcourir. Et particulièrement dans certains secteurs.
Et lesquels?
Les secteurs de la finance, ça me paraît évident. Ouais. Le secteur du droit, c'est encore, ça s'améliore un peu.
Mais ça s'améliore un peu à tel point qu'on entend certains hommes dire il y a de plus en plus de femmes avocates, de femmes magistrates, voilà. De femmes juristes.
Il y a trop de femmes. Oui. Voilà. Le métier va se dévaloriser, il y a trop de femmes.
Ouais. Donc rien ne change. Ça vous énerve pas quand vous êtes autour de la table et qu'il y ait 2 femmes sur 25 hommes?
Je vais vous dire, ce qui m'agace le plus, c'est que quand une femme prend la parole dans un grand cercle d'hommes, ils s'écoutent les uns les autres, mais quand une femme parle, le niveau d'écoute baisse de moitié. Et ça m'horripile.
Même avec vous?
Alors, d'abord, je l'observe sans doute un peu moins, et puis comme je suis toujours en présidence de ces réunions-là, quand je commence à sentir que le niveau d'écoute baisse, qu'ils prennent leur téléphone pour regarder leurs textos et leurs emails, ou qu'ils commencent à faire des petites messes basses, je tape sur mon micro en disant « on écoute ».
Et c'est souvent quand une femme parle?
Ah, c'est quasi systématique.
À compétence égale, vous embauchez une femme?
Oui.
Systématiquement, vous l'avez
fait. C'est même une politique au sein de la BCE. À compétence égale, c'est une femme qui sera embauchée. Oui.
En France, les hommes sont toujours payés 9% de plus que les femmes à poste égal. Et c'est beaucoup plus tout confondu. Mais à poste égal, 9% de plus que les femmes. Et je crois que c'est plus que 20%.
25%,
voilà.
Les pays de l'OCDE. Oui.
Quel conseil vous donneriez aux femmes de ne pas avoir peur d'aller demander des augmentations?
Oui.
Est-ce que vous avez eu peur d'aller demander des augmentations dans votre vie?
Non, mais j'ai fait un effort. Franchement. Et je pense que c'est parce qu'on n'est pas formaté comme ça, on n'est pas éduqué comme ça, et on n'a sans doute pas l'espèce de confiance en soi permettant de dire « Pierre, Paul, Jacques ou Alfred gagnent X, moi je fais le même boulot qu'Alfred, Paul et Jacques, donc je dois avoir exactement le même salaire ». Dans tous les postes de direction où j'ai été et où des augmentations de salaire étaient décidées ou des bonus étaient attribués, j'ai souvent eu des hommes qui venaient demander plus que ce qui leur avait été attribué, j'ai jamais vu des femmes.
Donc le message que vous passez à ce micro, c'est allez-y, demandez. N'ayez pas peur d'aller demander. Oui. Vous avez vécu une grande partie de votre vie aux États-Unis. Vous y êtes allé quand vous aviez 17 ans, scolarisé dans une école de filles du Maryland. Les Américaines ont-elles un rapport différent des Françaises à la réussite, à la puissance?
Ce que j'ai vécu en tout cas, et ce que j'ai observé, c'est que pendant très longtemps, elles considéraient qu'elles pouvaient être des femmes puissantes et exercer des fonctions de pouvoir à condition de ressembler aux hommes. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup gênée dans les entreprises américaines, c'est qu'elles s'habillaient comme des hommes, elles parlaient comme des hommes, elles s'adressaient aux collaborateurs comme des hommes. Et je pense que c'était une espèce de code sans lequel elles n'avaient pas le sentiment de pouvoir arriver à des postes de pouvoir. Donc ça, cette approche-là les amenait très souvent à être célibataires et dures.
Et ça, vous n'avez jamais succombé à ça? Vous avez toujours assumer les bijoux, les habits,
oui,
le côté très...
Ah oui,
oui, oui, parce sûr, que vous êtes, on vous parle à chaque fois de vos bijoux, mais c'est vrai, l'allure, le côté très féminin, mm. vous l'avez tout... Même quand vous étiez aux États-Unis, ça ne vous vous êtes pas dit, oh là là, pas de talons, pas de maquillage, oui. ça...
Non, non,
jamais.
Non, jamais, jamais. Cette espèce de mimétisme, c'était une façon de se priver de soi-même.
Ouais. Écoutez ce que dit Laure Adler sur les femmes qui entrent en politique. Mm. J'aimerais bien avoir votre avis sur ça.
Je pense qu'une femme, quand elle rentre en politique... obligatoirement, à l'exception de quelques vraiment très rares exemples, eh bien, elle rentre en elle toutes ses capacités érotiques, toutes ses capacités de séduction. Elle devient une sorte de soldat moine.
Oh non, 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 non. Non, ça, c'est pas vrai du tout. Rentrer toute sa féminité et faire abstraction de ça, non, ça, je crois pas du tout.
On peut être sexy et être une femme puissante ?
Oui, bien sûr, mais il y en a plein.
Mmh. Qui ?
Moi, je trouve que, par exemple, avec totalement différente, hein,
oui.
Mais quelqu'un comme Roselyne Bachelot a quelque chose de très, très sexy. Kosciusko Morizet aussi.
Vous aussi ?
Peut-être, je sais pas, on est sexy dans le regard de l'autre. Hein, c'est...
voilà ce que vous disiez au Washington Post. En 2014, il y a 6 ans.
Well, there's one, encouragement that I was
je me souviens d'un conseil que m'a donné mon père américain il y a longtemps. C'était la famille chez qui je vivais quand j'avais 17 ans.
And, whenever I had tough times, he would, you know,
à chaque fois que je traversais des moments difficiles, il m'envoyait un mot ou il m'appelait en me disant « Ne laisse pas les salauds t'atteindre ». Alors je sais que ce n'est pas très poli, que ça ne se dit pas, mais...
Don't let the bastards get...
Ne laisse pas les salauds t'atteindre, ça veut dire pour moi, continue le travail que tu es en train de faire. N'abandonne pas, résiste.
Who are the bastards?
Oh, il y en a partout.
Il y en a. Les salauds, il y en a partout?
Oui, oui, bien sûr. C'est quelque chose que j'ai fait dans toutes les fonctions que j'ai exercées, c'est que je les ai identifiés très vite. Et je pense que c'est un attribut du pouvoir et un renforcement de votre pouvoir. De les identifier et de les neutraliser.
Comment on les neutralise ?
Ah ben on les dégage.
Ah ! Vous n'hésitez non, mais... pas à dégager les salauds, comme vous dites, les bastards.
Écoutez, quand je suis devenue présidente de Baker McKenzie, je savais qu'il y avait dans un de nos bureaux à New York un groupe qui s'appelait The Rat Pack. Ils s'étaient identifiés entre eux, ils étaient trois, et ils abusaient de la firme. Ils ramassaient des gros paquets d'honoraires et ils disaient pique prendre sur Baker McKenzie. Et je le savais. Je les ai dégagés, oui. Je les ai convoqués, je leur ai dit « We don't like you, you don't like us, that's fine. » Vous partez.
Vous savez ce que disait, quelle est la plus grande qualité d'un homme de pouvoir selon François Mitterrand ?
Mm-mm.
L'indifférence.
Ah non, moi je ne suis pas indifférente.
Non ?
Non, non. Alors, ça dépend. Je pense que sa remarque est juste, en ce sens que si on arrive au summum de son pouvoir et qu'on a une totale confiance et qu'on est en totale maîtrise... Après tout, ce que n'importe quel journaliste racontera sur vous, ça vous laissera indifférent. Parce que vous êtes au-dessus de tout ça. Mais l'indifférence par rapport aux salopards, non.
Hmm. Vous, quand vous lisez une critique sur vous dans la presse, ça vous fait mal ?
C'est toujours un peu désagréable. Et puis ça passe.
Ouais. Mais vous n'êtes pas blindé encore ?
Non. Non. Peut-être que j'arriverai jamais au sommet du pouvoir mitterrandien, que je ne serai jamais dans l'indifférence. J'aimerais mieux ne pas être dans l'indifférence, d'ailleurs.
En 1999, quand vous êtes avocate d'affaires, vous aviez été interviewée au Quatre Vérités sur France 2. Et voilà ce que vous répondiez à la question « Ferez-vous de la politique un jour ?»
Après les affaires, un jour de la politique, peut-être ?
Non, sûrement pas.
Alors, en tout cas, vous n'avez pas raté votre carrière de Madame Soleil, Christine Lagarde. Comment on peut être à ce point à côté ? Sûrement pas la politique.
Sûrement pas, oui. Oui, mais octobre 99, je venais d'être nommée présidente de Baker McKenzie. J'étais un peu sur un nuage à ce moment-là et ça me surprend pas.
Ouais.
Je pense que quand on est complètement investi dans un projet, on regarde pas ailleurs et j'avais pas du tout envie de regarder ailleurs. J'étais à Chicago à ce moment-là en plus.
Finalement, la politique, vous y avez goûté ?
Oui.
Vous avez aimé ?
Oui. Ah oui, il y a des choses que j'ai adorées. Parce que c'est la position de pouvoir dans laquelle on est à ce moment-là. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens exceptionnels. C'est un privilège.
Nathalie Kosciusko-Morizet, que j'ai interviewée, dit qu'elle a souffert terriblement du sexisme dans le monde politique, où ses soi-disant amis du camp de droite, de l'UMP où elle était, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, Jean-François Copé, elle les cite tous, la traitaient globalement d'hystérique, de folle ou de pauvre petite chose fragile. Elle dit que les hommes politiques considèrent en général les femmes, c'était bien, mais c'était surtout bien pour gérer les questions de crèche et tout ça. Elle n'en sauve qu'un seul, Nicolas Sarkozy. Elle dit que c'est le seul qui était vraiment féministe, qui considérait les personnes en fonction de leurs compétences et pas de leur genre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, vous avez souffert du sexisme en politique quand vous étiez ministre, à droite ?
Je pense que j'ai été très privilégiée dans mon introduction en politique, parce que je suis arrivée à la demande de Dominique de Villepin et sous l'autorité de Jacques Chirac, et j'ai eu pendant 2 ans des fonctions de ministre du Commerce extérieur. Donc je passais la plupart de mon temps hors de France, en emmenant des entreprises, en attirant des investisseurs. Et donc j'avais un peu un rôle de VRP de la France, VRP de luxe.
Donc vous preniez pas trop de coups, quoi.
Donc je prenais pas trop de coups, j'étais préservée parce que j'étais le joueur de l'international, ouais, d'une certaine manière. Ouais. Mais j'ai eu les colibets, j'ai eu les moqueries, j'ai eu les critiques acerbes, j'ai eu les commentaires sexistes, etc. Mais vous savez, quand vous faites 1m80, que vous vous exprimez surtout en anglais et que vous représentez la France dehors, ça vous marque sans doute un peu moins. Mais j'ai entendu des trucs ignobles.
Quoi ?
Ah ben je me souviens par exemple une première session de questions à l'Assemblée, qui est un exercice extraordinairement difficile, où en général il y a des pratiques d'intimidation un peu avant, un peu autour, etc. Des commentaires du genre, ah ben je me demande avec qui elle a couché celle-là pour être là, enfin des trucs comme ça.
Il y a même un journal, quand vous étiez ministre de l'économie, qui a titré La Garde, Fortiche ou Potiche ?
Potiche, oui, oui, ça ouais. C'est l'homme à l'écharpe rouge.
Ah, c'est Christophe Barbier ?
Oui, oui, oui.
C'est vrai ?
D'une élégance.
Ça vous avait heurté à ce moment-là ?
Non, j'ai trouvé que c'était vraiment un peu mesquin, un peu facile.
Un peu facile. Ouais. Il y a un expert financier qui m'a dit un jour, Christine Lagarde, elle y est arrivée parce qu'au fond, ils l'ont toujours sous-estimée, et donc elle n'était pas menaçante pour eux, et elle a fini par les avoir tous et avoir tous les postes. Est-ce que c'est un peu vrai ?
C'est une analyse assez, je pense, assez juste, et je pense aussi que j'ai bénéficié de la crise en politique. C'est-à-dire que je pense que s'il n'y avait pas eu la crise qui a commencé en 2007, qui s'est complètement déclenchée en 2008, je pense qu'un certain nombre de jaloux et de rivaux auraient fini par avoir ma peau. Mais là, ça devenait trop compliqué, c'était trop international, et du coup, les jaloux, ils n'étaient plus tellement intéressés.
L'international vous a sauvé, en fait, d'une certaine manière. Si vous étiez resté dans une carrière française, politique française, ils vous auraient peut-être cassé les jambes.
Mais je crois que le monde politique est curieux, hein. Les gens se tiennent souvent par la barbichette, c'est je sais un truc sur toi, tu sais un truc sur moi, je dis rien, je te tiens, etc. Moi, j'arrivais de nulle part.
Ils n'avaient rien sur vous.
J'arrivais de Chicago, personne n'avait rien sur moi.
C'est embêtant. Au moment où votre nom circulait pour remplacer Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI, Angela Merkel avait parlé de l'estime qu'elle avait pour vous. On est en 2011.
Je crois qu'il y a de bonnes raisons, après la démission de Dominique Strauss-Kahn de la tête du FMI, de le remplacer par une personnalité européenne. Je ne peux pas encore aujourd'hui évoquer un nom. Mais je peux dire dès maintenant que parmi tous les noms évoqués, chacun possède une grande réputation. J'ai beaucoup d'estime pour la ministre française des Finances et cela ne date pas d'hier. Mais ce n'est pas une annonce de candidature, c'est simplement une remarque d'ordre général.
C'est typique d'Angela.
Vous dites c'est typique d'Angela ça. Qu'est-ce qui est typique d'Angela?
Elle a cette façon de ne pas dire tout en disant
je veux la garde au FMI. Mais
c'est pas une déclaration de candidature, mais elle est vraiment très très bien.
Angela Merkel, c'est la femme puissante.
C'est une femme très puissante, oui, et qui assume complètement.
Comment vous expliquez ?
Mais alors, elle est fascinante parce qu'elle assume complètement, et en même temps, je pense que les attributs du pouvoir lui sont totalement indifférents.
Comment vous expliquez ça ? Qu'elle aille faire ses courses, qu'elle paye elle-même les choses, qu'elle va au restaurant
Je vais vous raconter. Elle adore la musique, moi aussi. Et un jour, j'étais à Berlin, on est allés ensemble au concert. Elle y est allée, elle avait sa voiture, un garde du corps. Point barre. Il n'y avait pas d'histoire de motard, de trucs, de machin. Quand on est arrivés ensemble, donc on descend toutes les deux de la voiture, on entre, il y avait plein de gens qui attendaient pour prendre leur billet, pour passer au contrôle, etc.
Elle passe comme ça, elle demande rien à personne, elle fait pas de cinéma, elle va s'asseoir à sa place et puis on commence à papoter et voilà, c'est en totale authenticité et c'est pas un jeu parce qu'il y a des gens de pouvoir qui s'exerceraient à ce jeu-là pour dire vous voyez comme je suis près du peuple, etc. Elle, c'est pas du tout ça, c'est elle est comme ça.
Comment vous expliquez le secret de sa popularité, de sa longévité, cette femme ?
La compétence. En premier lieu, elle a une façon de s'exprimer qui est complètement authentique et sans emphase, dans la vérité en plus. Enfin, moi, ça m'a frappé pendant toute la crise du Covid où elle explique. C'est une scientifique de formation. Elle est allée elle-même au fond de tout. Je suis sûre parce que j'ai vécu ça quand on parlait de l'analyse de la soutenabilité de la dette grecque. Elle dit, alors, attendez, on va regarder maintenant, on va regarder tous les papiers, on va vérifier les chiffres, montrez-moi les colonnes, etc. Où est-ce que vous mettez telle et telle dette, où est-ce que... Elle est comme ça. Donc, comme elle fait cet exercice-là, elle est totalement dans la conviction.
On manque de ce discours à la fois de simplicité et de vérité en France. Je ne vise personne, hein. C'est une question large.
Je ne sais pas si ça passerait en France, je ne me rends pas compte.
C'est-à-dire qu'elle est trop normale ?
Je pense qu'elle serait considérée comme un peu trop normale, oui.
Il y a 3 ans éclate un mouvement dans le cinéma, d'abord, puis dans toute la société, MeToo. Sur MeToo, sur Balance ton porc, vous avez dit dans Elle, il y a 2 ans, je redoute surtout que le mouvement MeToo ne se retourne contre nous, que le subliminal ne soit, évitons maintenant d'embaucher une femme car on risque d'avoir des problèmes. Vous regrettez cette phrase ou non, vous pensez que...
Non. Je pense qu'on doit toujours être extrêmement attentif à cet écueil, à ce risque. On le disait tout à l'heure, il y a tant de décisions qui sont prises entre hommes. Parce que plus vous vous élevez dans une hiérarchie, dans une entreprise, dans une institution, dans une organisation quelconque, plus vous trouvez des hommes. Si leur crainte, c'est qu'il y ait des dénonciations, qu'il y ait des enquêtes pour harcèlement, etc., la tendance naturelle, ça sera de rester entre soi. Donc,
Et c'est ce que vous retenez de MeToo, vous
ne Non, retenez... bien sûr que non.
Vous ne retenez pas d'abord cette espèce de... Est-ce que d'abord ça vous a stupéfait de voir qu'il y avait autant de femmes qui disaient avoir été harcelées ou plus ?
Je pense que c'était une révélation et une réponse collective très forte, très salutaire et absolument nécessaire.
Mais attention aux excès, c'est ça ?
Non, c'est pas attention. Non, je pense qu'il faut impérativement dénoncer et il faut encourager, il faut soutenir et il faut qu'il y ait un cadre pour aider toutes celles qui se trouvent dans cette situation de dépendance, de soumission, de menace, de pression, de violence. C'est inacceptable. Mais ce que je dis, c'est sous les bonnes volontés dont tout le monde fera part, il y aura peut-être derrière en dessous, bon, autant pas embaucher de femmes, comme ça on n'aura pas de problème. Et ça, c'est très dangereux.
Vous avez déjà subi du harcèlement ?
Oui, bien sûr.
Vous avez déjà subi du harcèlement ?
Oui.
Sexuel ?
Oui.
Vraiment ?
Mais c'est ce que je vous disais, j'ai la chance de mesurer 1m80 et d'être plutôt costaud. C'est-à-dire que je peux encore faire le bras de fer avec mes fils, vous voyez, et parfois même gagner. Donc, même si à une certaine période de ma vie, j'étais probablement excitante et sexy et tout ce qu'on voudra, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Et ça m'a beaucoup servi.
Net à mettre.
Oui. Oui.
Même quand c'était un supérieur hiérarchique.
Alors, vous avez raison, j'ai pas été dans cette situation avec un supérieur hiérarchique. Mais comme j'étais avocat et que j'étais une profession libérale et que j'étais indépendante, ça m'est arrivé avec des clients qui sont restés dans leur taxi ensuite.
D'accord, très bien. À chaque femme, je demande une musique, une chanson ou une musique, effectivement, un morceau qui représenterait la puissance des femmes. Vous avez choisi quoi, Christine Lagarde ?
J'ai choisi l'air de Castadiva dans Norma et dans l'interprétation de Maria Callas. Thank you.
Pourquoi ça? Pourquoi elle?
Parce que elle, si vous voulez, c'est l'aboutissement total de la puissance. Je vous parlais de la maîtrise tout à l'heure. Elle a une maîtrise totale de sa voix, de son souffle, du silence qu'elle instaure, de la relation qu'elle établit avec la musique, avec l'orchestre, avec... C'est incroyable. Norma, c'est en plus un rôle qui est passionnant parce que, à cause des rapports avec l'ami, les relations amoureuses compliquées. Enfin, Norma, c'est un bel opéra en soi, mais c'est surtout son interprétation à elle d'un air magnifique et très difficile, et où elle est c'est un bijou absolu ce moment-là.
C'est un modèle pour vous, Maria Callas?
Non, c'est pas un modèle du tout. C'est une espèce de mythe incroyable. C'est la puissance totale qui s'est consumée dans l'amour total. Oui. C'est tragique, son destin. Mais en même temps, elle a tellement, tellement généreusement donné. Elle a tellement éveillé de passion et d'amour autour d'elle.
Christine Lagarde, j'ai remarqué que toutes les femmes puissantes avaient un rapport particulier à leur père, qu'il les ait encouragées ou empêchées. Il a été la matrice en fonction de laquelle elles se sont construites. Vous avez perdu votre père très jeune, vous aviez 16 ans, il était prof d'anglais, proche des cercles mitterrandiens. Il est mort d'une maladie dégénérative après avoir souffert pendant 4 ans. En quoi cette perte, ce manque du père, a joué dans votre vie et peut-être dans votre carrière aussi?
Je pense que je suis partie aux États-Unis à cause de lui.
Après sa mort.
Après sa mort, bien sûr. Parce qu'il était mort en... Donc j'avais 16 ans, j'ai passé mon bac et l'année suivante, je suis partie. Je suis convaincue que ça correspondait à une tentative de le retrouver quelque part, puisqu'il était effectivement professeur d'anglais à la faculté de Rouen, et il avait lui-même beaucoup voyagé aux États-Unis, il avait fait des travaux de recherche, etc. Donc je pense qu'il y avait quelque part une quête du père que je faisais dans cette expatriation, qui m'a permis de retrouver une famille d'ailleurs, parce que j'ai retrouvé une famille américaine qui m'a adopté et qui est toujours très proche de moi.
Votre modèle, c'est votre mère, j'ai lu, qui ressemblait à George Sand. En quoi?
Elle était à la fois romanesque, très féminine, et elle assumait sa part de masculinité aussi. Mmh. Elle était très libre. C'est une femme qui, dans les milieux bourgeois de province, s'est mise à faire de la course automobile, du rallye, qui montait à cheval, qui s'est mise à fumer alors que personne ne fumait dans son environnement. Enfin, elle a été une transgresseuse, pas dans le même registre que George Sand, et malheureusement, elle a jamais écrit ce qu'elle voulait faire, mais ce qu'elle a jamais eu le temps de faire puisqu'elle est morte avant.
Une transgresseuse, vous ne l'êtes pas tellement.
Ah, j'aime bien bousculer les choses quand même. Si vous demandez aujourd'hui au gouverneur de la Banque Centrale Européenne, divers et variés, si on devrait inclure le changement climatique dans la série des critères permettant de déterminer la stabilité des prix, qui est le mandat de la Banque Centrale Européenne, ils vous diront « Oh oui, elle essaye ». Donc j'aime bien pousser les limites.
Vos fils, vous les avez élevés comment? Vous avez été une mère sévère?
Il faudrait leur poser la question. Je pense que l'un d'entre eux dirait que je ne l'ai pas été assez... Et l'autre dirait que je l'ai été. Je pense que je l'ai été plus avec l'aîné qu'avec le second.
Comme toujours.
Et
c'est jamais assez bien de toutes les manières.
Non, de toute façon, alors là, ça y est, rassuré. On est de toute façon, quand ça va pas, on est toujours responsable.
Oui. Vous les avez quand même laissés à Paris avec leur père quand l'aîné avait 12 ans pour diriger Baker McKenzie aux États-Unis à Chicago. Vous rentriez tous les week-ends. Oui. C'était pas déchirant pour vous de laisser vos deux fils jeunes à Paris?
C'était très dur, mais j'avais la chance inouïe d'avoir une dame qui n'était pas un substitut de mère, parce qu'elle ne l'a jamais prétendu, mais qui a été auprès d'eux et qui a été absolument providentielle. Et puis leur père était là aussi et s'est très très bien occupé d'eux, et je lui en sais infiniment gré.
Ils n'ont pas manqué de mère?
Je pense pas, mais...
Christiane Taubira toujours m'a raconté qu'elle avait demandé, un jour elle avait convoqué ses 4 enfants, elle leur a demandé pardon. Oui. Elle leur a dit j'étais pas assez là, oui. J'étais pas, pardon, j'ai fait passer ma vie politique avant, oui. Etc. Et ils lui ont ri au nez en lui disant arrête de t'excuser, t'as été une très bonne mère.
Oui, je pense que j'aurais la même réaction si je faisais cette démarche avec eux. Oui. En revanche, chaque fois que j'ai, quand je suis partie aux États-Unis, quand je suis revenue, quand je suis repartie, chaque fois je leur ai demandé qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que, et il y a une générosité et un amour de mes enfants qui chaque fois m'ont dit mais vas-y. Et le plus petit un jour m'a dit t'as commencé un truc, tu continues, tu vas jusqu'au bout. C'est ce que tu nous dis tout le temps.
Donc ils vous en veulent pas. Quand je vous écoute, je me demande est-ce qu'on peut avoir tout à la fois. Est-ce qu'on peut avoir une grande carrière, une vie de famille, une vie amoureuse comme les hommes, ou est-ce qu'il y a forcément un sacrifice à faire quand on est une
femme? Je pense qu'on peut pas tout avoir en même temps.
Ah oui?
Je pense que il y a trop de densité dans tout ce que vous venez d'énumérer pour, et les journées sont pas assez longues et on n'a pas assez d'énergie pour tout faire.
Et alors vous avez sacrifié quoi?
Je pense que j'aurais pu mieux faire tout. Si, c'est vrai, je vous assure.
Mieux faire tout?
Oui. On a le regret de ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants, de ne pas avoir été suffisamment attentive à telle chose. On a le regret d'avoir dû divorcer parce que la vie conjugale n'était pas une réussite. Ça m'est arrivé une fois et voilà, c'est un échec aussi, ça.
Les hommes de ma vie ont eu du mal à accepter ma réussite, avez-vous dit. C'était dur pour eux d'être Madame Lagarde?
Je crois que c'est compliqué, oui.
Ça l'est toujours pour votre...
Non. Lui, il est un merveilleux soutien et je pense qu'il est heureux de me voir épanouie dans ce que je fais.
Vous l'avez rencontré à l'âge de 50 ans. Vous dites on peut être monumentalement heureux à tout point de vue, mentalement, physiquement, sexuellement à 50 ans. Et bien au-delà, il faut le dire aux femmes.
Oui. C'est vrai.
Donc on n'est pas.
On s'était connus bien avant parce qu'on était tous les deux chargés de TD à Paris 10, mais on s'est retrouvés après.
Donc un Yann Moix qui va expliquer que les femmes de 50 ans sont sorties du marché se trompe.
Non, mais il est. Enfin, chacun sa vie, hein. Mais je peux vous dire que je suis le témoignage vivant de ce qu'on peut être extrêmement heureux et on peut être extrêmement à la fois séduisant et séduit. À cet âge-là, et j'espère bien l'après encore. Oui. J'ai vu ma mère à 75 ans, sublimement belle.
Vous allez nous dire que prendre de l'âge ne vous angoisse pas?
Pas du tout. Vraiment? Oui,
vous
vraiment.
Vous ne pas là?
Ah non, je vous assure que je mens pas. Vraiment. Ça m'angoisse pas du tout. Et je pense que si autour de vous, il y a des enfants, l'homme de votre vie qui vous aime comme vous êtes, c'est pas du tout angoissant.
Votre métier est ultra physique, des nuits entières de négociations, des trajets d'avion à non plus savoir quoi faire, décalage horaire. À un de vos collègues qui vous demandait, qui vous félicitait sur votre bonne mine, vous lui avez dit la différence entre les hommes et les femmes, c'est le maquillage. Vraiment?
J'ai même dû dire le trompe-couillon parce que je pense que terracotta, c'est un excellent trempe-couillon quand on sort d'une nuit d'avion un peu compliquée. Non, mais il y a une grande question aussi de discipline, de ce qu'on ne boit pas, de ce qu'on ne mange pas, de ce qu'on ne fume pas, de ce qu'on essaie de dormir chaque fois qu'on peut, etc.
Et la natation synchronisée, alors?
Oui.
J'ai entendu ça, ça m'a beaucoup fait rire. C'était en 1984. Écoutez comment c'était Muriel Hermine, comment on l'a décrit. Regardez.
De haut en bas, de bas en haut. La tête en bas. Les pieds en l'air, le haut et le bas est en l'air. Mais lorsqu'on a la tête à l'envers, on voit comme si les pieds étaient en l'air. Et la tête est en bas, et le haut est à l'envers. Le haut n'est plus le haut, ce qui fait que les pieds sont en l'air et la tête en bas. À ce régime, même Newton n'aurait jamais connu la pomme. Renversant, non?
Vous adorez, vous étiez une championne de natation synchronisée. Oui. Vous avez aimé avoir la tête à l'envers.
La tête en bas, les pieds en haut. Et puis, oui. C'est une maîtrise très compliquée. Hein, et Muriel était une très grande championne.
Et vous êtes bonne aussi? Vous êtes toujours bonne en natation synchronisée?
Non, j'en fais plus parce que j'aurais l'air complètement ridicule dans un bassin. Mais je nage encore régulièrement. Oui.
C'est important.
Mais je pourrais encore vous surprendre.
Quelques questions de fin pour terminer. Vous répondez spontanément ce qui vous passe par la tête, Christine Lagarde. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi?
Les trois.
Ah non, faut choisir.
Eh si. Bon, alors liberté.
L'argent fait-il le bonheur?
Non.
C'est pas une réponse de gens privilégiés de dire que non, l'argent ne fait pas le bonheur.
Non, parce que j'ai vu des gens qui avaient... Ce que je vous disais, dans les fonctions que j'ai eues et que j'ai encore, je vois beaucoup de gens, et notamment des gens qui ont beaucoup d'argent. Je ne les sens pas particulièrement heureux grâce à leur argent. Non.
Il y a d'autres femmes puissantes qui vous ont bluffé?
Simone Veil m'a bluffé. Elle m'a invitée à déjeuner un jour avec Antoine. Et elle a pratiquement rien dit pendant tout le déjeuner. Et puis elle a attendu la fin pour me donner une série de conseils. Elle m'a vraiment bluffé. C'était Antoine qui parlait. Et elle observait.
Elle vous a donné quoi comme conseil important?
Ça, je me les garde.
Vous avez envie parfois, tout envoyer balader, de partir en Italie?
Oui.
Souvent ?
Non, mais de temps en temps, oui. Je partirai en Corse plutôt qu'en Italie, mais bon.
En Corse ?
Ouais.
Vous êtes toujours une femme de droite ou ça ne veut plus rien dire ?
Je pense que je n'ai jamais été une femme de droite, très franchement.
Ni de gauche ? Plus à gauche ?
Si j'ai été quelque part, j'ai été un peu giscardienne.
Centre-droit, quand même.
Oui, centre-droit. Mmh.
Une femme présidente de la République en France, vous le verrez un jour ?
J'espère qu'un jour, ça viendra. Mmh. Regardez, on a une vice-présidente américaine, enfin !
Oui, et en France, ça ne bouge pas tellement.
Il n'y a pas beaucoup de vice-présidentes, ça serait peut-être l'idée, en fait, de changer la Ve République, de modifier la Constitution, de s'assurer qu'il y ait une femme qui arrive comme ça, discrètement sur le côté, et plouf !
Et pourquoi pas vous ?
Oh non, 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 non. Mais j'ai passé l'âge. J'ai beaucoup trop.
Vous voulez que je vous rappelle quel âge il a, Joe Biden ?
Oui, mais c'est un président de transition. J'espère qu'il va passer la main à d'autres, à une autre génération. Non, il faut qu'il y ait des. Non.
Enfin, je vous rappelle qu'il y a 20 ans, vous aviez dit.
Ah oui, c'est vrai.
Je ne ferai jamais de la politique. Vous l'avez fait. Donc, si ça se trouve, le je ne ferai jamais. C'est impossible si un jour les conditions, comme on dit, les circonstances l'imposent.
Non, 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 non.
Ça vous fait même pas rêver.
Non. Non, ça, non, et puis je vois de trop près ce que ça représente de tension, de sacrifice, de trucs qui sont pas heureux du tout, du tout.
Dernière question, la question Jacques Chancel et Dieu dans tout ça.
Il est là avec nous.
Vous êtes croyante ?
Oui.
C'est important ?
Oui.
Ça vous aide ?
J'espère que ça m'aide à aider les autres.
Merci beaucoup Christine Lagarde de nous avoir accordé cet entretien entre deux avions, entre Francfort et je ne sais pas quelle autre capitale, chez vous en plus, à Paris. Merci beaucoup.
Merci.
Voyo que tu me toques con la tua rabbia. Voyo que tu me toques con il tuo furore. Questa è la rinuncia della tua
Christine and the Queens featuring Caroline Polachek à Vita Nuova sur la playlist Inter. Merci d'avoir écouté Femmes Puissantes. À la préparation, Paola Puerari, Marie-Elisabeth Jacquet, Maud Ventura. À la prise de son, Alexandre Abergel. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Dibert. À la réalisation, Anna Bui. Bon samedi à toutes et à tous sur France Inter. Et demain, notre invitée, c'est elle.
Pour atteindre une certaine maturité, il faut passer par plein d'épreuves. Hein. C'est sûr que tout ne vient pas comme ça d'un coup et je suis née en guerrière mentale comme ça. Non, je suis passée par plein d'étapes, il m'est arrivé plein de broutilles et je pense que ça m'a renforcée. Il y a aussi des sons qui m'ont aidée, quoi, genre Dja Dja.